Il est 10h08.
Bonsoir les jeunes, un petit peu de musique cheap s'il vous plaît.
Avant de parler, j'aimerais dire quelque chose.
Les cyniques, méchante révolution.
Selon la rumeur, on serait censé faire un spectacle méchant.
Vous allez voir que ça swing à mort.
Un portrait du groupe d'humoristes le plus influent de la Révolution tranquille.
Une bonne main d'applaudissements. Un godin à Vaplaze pour...
Les cyniques.
Les cyniques.
Les cyniques.
Les cyniques.
Les abominables cyniques.
Les cyniques, c'est les cyniques.
Au plus grand groupe humoristique que le Québec ait jamais connu, les Gérolas. Alors, excusez, les cyniques.
Troisième épisode.
Ils ont marqué l'époque parce que extrêmement original, extrêmement créateur, puis à contre-courant de tout ce qui se faisait, puis en même temps s'insérant dans le mouvement de notre culture québécoise. On n'avait pas le même humour que les Français, puis eux autres, ils nous ont fait découvrir ça, ils ont mis le doigt dessus complètement.
Nous autres, on est du monde chanceux, on habite deux pays bilingues, en effet, le Canada est bilingue et le Québec est bilingue. Eh bien, tout ça, ça remonte à 1759, année de la bataille des plaines d'Abraham. Eh oui, sur les plaines, on se bat mort, d'un côté les braves Français et de l'autre les autres. Alors voici comment, en toute objectivité, évidemment, un commentateur sportif de l'époque aurait pu décrire la situation.
Hello, racing fans! Bonjour, éventail de course! Here we are, nous voici aujourd'hui à la brunante à de Browning. C'est le Derby de la conquête, the Conquest Derby. Sur les plaines d'Abraham, on the Falls of Abraham. Nous voyons arriver les Anglais, we see arriving the blokes. Les bateaux sont en marche, the boats are now moving. Ils arrêtent à Cap-Rouge, they stop at Red Cap. Ils débarquent, they are debarking. Allons au foulon at the handle of the long crazy. Voici maintenant les Français. Here come the French pea soup. Here they are, les voici excellents. Good, bravo, hooray. Get ready to place your bets. Préparez-vous à gager. C'est un départ. It's a go. Les Français foncent les premiers. The French are foncing first. Mon calme en tête du peloton. My calm at the head of the platoon. Il tire des shoots dans le beurre and the butter. Montcalm, my cam recule, backs up with his gang avec sa bunch. Il est en beau joual vert. He's a nice green horse. Il prend le mort aux dents. He takes the dead by the teeth. The soldiers of Wolf, les soldats de Tilou, les étripes, they are étripping them. Les Français les jaunes, the French laugh yellow. Ils sont au coton, they're at the cotton. Oh, mon calme est tiré, my calm is pulled. Il dit merde, he says merde. He is badly hurt, il est mal à manger. Il a trois balles, he has three balls. He dies, il meurt, il dit what, he says dommage, damage, he was only 49, il était seulement 49. Les Français sont vaincus, the French are 20 asses. Ici votre commentateur, Zéphirin Brisebois, Sweet Breeze Crackwood. Il vous dit, oh, fly bin, bin volante. Un soldat pointe un gun sur moi, soldier points a gun at me. Hey, tirez-moi pas s'il vous plaît, don't shoot me please. Je vais sacrer mon camp, I will swear my camp. J'ai la chienne, I have the bitch.
Le cynique Marc Laurendeau.
En 68, 69, surtout 69, on s'est rendu compte que les numéros sur le clergé, les parodies du cardinal, c'était des choses qui faisaient moins rire parce que les statues avaient été déboulonnées, les tabous avaient été défoncés. Alors, on se rendait compte que ça n'était plus le sujet du jour et donc on est allé en diminuant là-dessus, au risque d'en parler vraiment beaucoup moins. Le pourcentage de politico-social dans notre spectacle a augmenté et au détriment de tout ce qui était clérical. Mais là, on se trouvait accompagné le changement qui se produisait vraiment. On s'adaptait à la situation. C'est un autre type de changement là, qu'on accompagnait. On accompagnait, si vous voulez, la montée du nationalisme. Et, bon, il y avait encore des gens qui faisaient des discours ridicules d'une autre manière. On peut dire qu'on a vraiment pris un virage quant à, au contenu de nos spectacles.
Les cyniques Serge Grenier et André Dubois.
Un meeting ne pouvait pas commencer sans un quart d'heure consacré à un bref tour d'horizon de la situation politique mondiale, enfin, et québécoise et canadienne. À telle enseigne qu'à un moment donné, on dit, bon, ben écoutez, là, on n'est pas ici pour régler le sort du monde, on a du travail à faire, puis il fallait mettre un terme au grand chagrin d'un ou deux d'entre nous, mais, enfin, surtout de Marcel.
Oui, oui. À tel point que le spectacle, c'était un petit moment d'interruption entre nos discussions politiques. Ça commençait avant le spectacle et ça continuait longtemps et tard dans la nuit.
Oui, on refaisait le monde avant de passer au sujet sérieux, qui, en l'occurrence, était de faire des blagues. Mais c'était une drôle de situation.
Oui, on riait beaucoup en parlant des choses sérieuses, la politique, et on était très sérieux en préparant nos drôleries.
Ça prend une culture aussi pour faire ce que les cyniques faisaient.
Le musicien Yves Laferrière a accompagné les cyniques sur scène au milieu des années 60.
Et c'était des gens très cultivés, qui avaient lu et qui étaient curieux. Et dans leur cas, étudiants en droit, s'intéressaient beaucoup plus à la politique que le Québécois moyen. Donc, ils jetaient un éclairage sur la politique que les Québécois découvraient. On a découvert la politique à travers eux, je pense. On s'est intéressé à la politique à travers eux.
Afin de vous rafraîchir la mémoire à propos de notre belle grammaire française, nous allons procéder avec vous comme avec des enfants, c'est-à-dire par des exemples.
Nous allons d'abord vous apprendre à distinguer les verbes réfléchis des verbes non réfléchis. Ainsi, dans la phrase suivante...
J'ai voté pour l'Union nationale.
Le verbe voter est non réfléchi.
Moi, ce qui m'a attiré dans l'humour, c'est le côté politique, le côté social.
André Dubois.
Et d'avoir l'occasion de participer à ce qui se passait à cette époque-là, qui était finalement une sorte de mouvement de libération, qui est arrivé tout d'un coup, mais qui rencontrait quand même certains obstacles. Donc, c'est, bien sûr, le SAGE a été élu en 1960, puis ça a débloqué, mais il y avait encore du travail à faire. Donc, de faire partie d'un groupe, puis d'apporter, à travers les sketchs politiques que je faisais, peut-être une réflexion ou d'éveiller l'esprit critique de ceux qui étaient dans la salle, ben je trouvais que ça, c'était une valeur ajoutée, disons, à ce que je faisais. Mais, bien sûr, mon premier objectif, comme mes collègues, c'était de dire « on va faire un numéro drôle ».
Ici votre représentant de la commission d'assurance chômage. Chômeurs du Québec, cherchez-vous de nouveaux débouchés? L'assurance chômage du Canada vous aidera à profiter de la prospérité qui déferle actuellement sur le Québec. N'écoutez pas les pessimistes qui disent que tout va mal, que les loyers augmentent, que les taxes augmentent, que le chômage augmente. C'est pas vrai. N'écoutez pas ceux qui prêchent l'indépendance du Québec. On peut pas se permettre l'indépendance. Les taxes augmentent, les loyers augmentent, le chômage...
L'animateur, René Aumirois.
Il y avait du monde à mordre, il y avait des idées à bardasser, il y avait plein, plein de choses à dire. Trudeau, quand est arrivé Trudeau, ils l'ont pas ménagé non plus. Et à raison, parce que Trudeau suscitait la Trudeau-mania d'un côté, mais on pourrait dire la Trudeau-phobie aussi de l'autre, et c'est plutôt la Trudeau-phobie que les cyniques servaient.
Monsieur Trudeau, certaines personnes se disent que vous êtes un imbécile. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je dirais seulement qu'il y a beaucoup d'imbéciles dans le pays et ils ont parfaitement le droit d'être représentés.
Ils étaient de leur temps. Ils étaient dans l'ère du temps. Et l'ère du temps, dans mon souvenir, en tout cas, ça fait quand même longtemps, hein, dans l'ère du temps, on appelait de nos voeux ce genre d'affaires-là.
Mesdames, messieurs, c'est également le marasme dans l'éducation.
Extrait d'un discours de Camille Sanson au congrès du ralliement des créditistes le 22 mars 70.
On sort de plus en plus le bon Dieu des écoles pour rentrer des professeurs qui nous viennent d'Afrique, d'France ou d'ailleurs, des professeurs qui trois quarts du temps sont des athées. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer des athées. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer la drogue. On sort le bon Dieu des écoles pour rentrer le sexe, alors que nous devrions prendre les dispositions afin de retourner Dieu là où il a sa place, dans nos écoles de la province de Québec.
Camille Sanson, c'est une caricature en soi, c'est une caricature vivante.
L'historien de l'humour, Robert Aird.
Impossible qu'un humoriste laisse échapper une chose pareille, un peu comme Jean Chrétien plus tard avec les caricaturistes en particulier. Donc Camille Sanson, son parler, son joual, ses idées de paroisse, bon, nationaliste, traditionnaliste, les idées très conservatrices. Évidemment, il représente tout ce que la Révolution tranquille n'est pas.
Mesdames et messieurs, voici le chef du ralliement des créditistes, Camille Sanson! Yeah! Il y a d'abord l'agriculture qui est dans un marasme, mesdames et messieurs. Le gouvernement actuel refuse de régler les quatre principaux problèmes de l'agriculture au Québec. Vous les connaissez, les quatre principaux problèmes de l'agriculture au Québec? Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le sec. Prenons par exemple le domaine du cinéma. Les vicieux gagnent du terrain, mesdames. Vous leur donnez un pouce, ils prennent une verge, mesdames.
André, c'est l'homme des talents multiples.
Serge Grenier.
D'abord, c'est un musicien. Et au début, c'est lui qui nous accompagnait. Il a été un des tout premiers imitateurs. Il était vraiment excellent imitateur. Ce qui, pour nous, était un avantage considérable pour le spectacle, parce qu'on essayait de diversifier les façons de faire rire les gens. Et avoir un imitateur du calibre d'André dans le groupe, c'était un acquis fantastique.
André, avec qui j'ai travaillé, André Dubois, oui, Pierre, c'est drôle, c'est drôle.
L'humoriste et imitateur, Pierre Verville.
Moi, André m'a influencé beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire des imitations, j'étais tout petit, j'ai commencé à imiter Sol. Et j'avais le disque aussi d'Astérix, Astérix, mais en disque, avec toutes sortes de voix, tout ça. Jusqu'au jour où je me rends compte que... Il y a des gens qui font des imitations. Par exemple, André Dubois, qui, lui, faisait beaucoup d'imitations dans les ciné, que je me dis, tiens, ça peut être un métier. Et je me mets à imiter tout le disque au complet. Ça me donnait le goût, donc, de faire ça. Et je voyais qu'il y avait des gens qui vivaient de ce métier-là, qui pouvaient être drôles, mais qui pouvaient aussi faire des imitations. Donc, avant même Jean-Guy Moreau, les premiers imitateurs que j'ai entendus, ce sont les cyniques. Je dois dire que ce que moi j'aimais d'eux, c'est que, justement, il y avait de tout. Il y avait de l'absurde par bout, il y avait du jeu de mots, il y avait de la parodie de chanson, il y avait de tout.
Et voici le moment que vous attendez tous, celui de vous présenter le prince des fakirs, le roi de la magie orientale, directement de l'Inde des Maharajas. Voici, mesdames et messieurs, l'unique, l'extraordinaire, le fantastique, le superbe Mandrake Poitras.
Ah, bonsoir, public avide de mystère. Excusez-moi d'arriver à une heure hindoue. Vous avez certainement vu ce tour dans lequel un magicien assied sa femme en deux. Eh bien, puisque vous l'avez vu, je ne vous le montrerai pas. C'est un tour que je faisais autrefois avec ma femme. Elle est hospitalisée à l'Hôtel Dieu. Chambre 202 et chambre 208. Et l'on continue cette soirée de sorcellerie avec un petit peu de télépathie. Vous le savez peut-être pas, mesdames et messieurs, mais j'ai le pouvoir de deviner les pensées. Ainsi, actuellement, je sais ce que vous pensez de moi. Et je vous remercie. Mon assistant, le très oriental, Ali, m'apporte ma boule de cristal. Il va aller vers vous pendant qu'ici je me prépare à vous dévoiler le passé, le présent et l'imparfait du subjonctif.
Mandrake,
Que savez-vous sur ce, monsieur?
C'est un Français qui est de passage.
Ah, mais il dit qu'il va rester au Canada aussi longtemps que les Canadiens voudront bien de lui.
C'est en plein ça, il est de passage.
Est-ce que ce monsieur avait un bon emploi en France?
Il n'y avait pas à se plaindre.
Est-ce qu'il était bien logé en France?
Il n'y avait pas à se plaindre.
Est-ce qu'il était bien nourri en France?
Il n'y avait pas à se plaindre.
Qu'est-ce qu'il est venu faire au Canada?
Il est venu se plaindre.
Grand Mandrake, j'aperçois au fond de la salle, là, un policier de Québec qui aimerait savoir combien vaut son chien.
10 000 $.
Hé, hey, c'est plus cher que le policier, ça, là.
Il y a des chiens qui valent plus que d'autres.
On ne possède aucun indice nouveau quant au sort de l'attaché commercial de Grande-Bretagne à Montréal, M. James Richard Cross, qui a été kidnappé ce matin par 4 individus armés. Cet enlèvement...
Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin.
Le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, M. Pierre Laporte, a été kidnappé au début de la soirée, alors qu'il prenait un moment de détente en compagnie de son fils en face de son domicile.
Après avoir examiné la situation, et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 h ce matin, afin de faire...
À 12:25, précisément... Le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte.
René Aumierois.
On aurait pu croire, quand c'est arrivé, la crise d'octobre, chacun l'a vécu à sa façon, bien sûr, que cette espèce de traumatisme-là aurait pu détruire toutes les fibres, non pas de résistance, mais de résistance par le rire. Qu'il y a des sujets... dont on n'oserait pas se moquer parce que ça avait trop fait mal à des gens ou que ça avait été trop épeurant, que ça nous avait permis de découvrir des affaires dont on n'imaginait pas que ça pouvait nous arriver à nous. Or, en allant voir un spectacle comme celui des cyniques, en sortant, en fait, je me disais, c'est formidable parce que les tabous, ils vont continuer à les brasser.
Nous sommes en spectacle aux Patriotes de Montréal.
Le cynique Marcel Saint-Germain.
Monsieur Laporte venait de mourir 2 semaines avant. C'était vraiment la paranoïa chez nous. On avait l'armée, c'était partout. Hein?
Oui, oui.
Vous aviez des soldats à tous les coins d'œil. Et là, je me souviens, au début du spectacle, nous chantions une chanson entrecoupée de blagues. Et je disais à Marc, tu sais, Marc, que Ford vient de sortir un nouveau gadget dans une nouvelle voiture. Il a dit... C'est quoi le gadget? Je la porte dans le coffre.
J'étais très rassuré de me dire, ces cyniques-là, faut pas oublier le sens du mot non plus, là, c'était pas juste le nom d'un groupe, ces cyniques-là le sont restés, vont le rester, et pour notre plus grand bien à tous, je pense.
Constable Maquet, on va vous recycler.
Oui, chef Saulnier.
Vous allez voir que ça sera pas compliqué. Dans la police, on enseigne suivant les méthodes idiovisuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est un événement?
Un événement arrive généralement en octobre.
Ben non! Un événement, c'est quelque chose qui prend sur nos têtes, un peu comme les pieds de Périclès. Exemple, un kidnapping. Autre exemple?
Le FLQ a procédé à l'enlèvement des ordures.
Définissez-moi le mot « drapeau ».
Un drapeau, c'est une bannière soulignant la fierté nationale. Ou ça peut être un maire. Mais ça n'a rien à voir avec la fierté nationale.
Gaston Miron raconte cette anecdote.
Marc Laurendeau.
Il est arrivé devant la télévision, il allume son poste, et Drapeau venait de remporter la victoire après avoir affirmé que le FRAP, c'est le parti d'opposition, c'est un front pour le FLQ. Et alors, il avait fait un discours à la télévision énergique, hein. Il évoquait la terreur, là, et on a échappé, les gens m'ont donné un mandat comme il fallait qu'ils me le donnent parce que Montréal était menacé. Ça a été ça son thème. Et Gaston Miron, allumant sa télé, voyant-t-on, il dit « Coudonc, as-tu perdu? » Parce qu'il était tellement en furie qu'il avait eu cette impression.
Et c'est à se demander si l'ensemble de notre population, honnête, consciencieuse et démocratique, saisit bien la menace qui pèse actuellement sur le régime.
Serge Grenier.
Marcel en avait fait une caricature, mais une caricature...
Un fou.
Un fou,
un dictateur.
Oui, carrément. Et un dictateur, c'est vrai. Mais qui était justifié parce que le Jean Drapeau que Marcel personnifiait, c'était le Jean Drapeau de la fin des années 60 et de 1970, la crise d'octobre.
Voilà. Et au fond, le drapeau qu'on regrettera moins, c'est celui 70 à 76. Celui qu'on a adoré, c'est les années 60. Et il était difficile pour nous à saisir dans les années 60. Début des années 70, on n'avait pas de misère. Enfin, Marcel n'avait pas de misère. Il le faisait, je vous le rappelle, dans une camisole de force.
Bonsoir! Je voudrais ce soir faire quelques mises au point. Il y a des gens qui m'appellent d'une expression vulgaire, d'une expression malveillante, qui m'appellent Ticu. J'espère que c'est parce que je suis un petit et non pas parce que je suis un... Je voudrais, dans ma ville de Montréal, n'avoir aucun ennemi. D'ailleurs, je n'ai que des amis, mi maestos. Je me demande ce que je fais ici, à l'asile.
Mes parents avaient été choqués.
Paul Saint-Germain, épouse de Marcel Saint-Germain.
Mon père, à l'époque, était conseiller municipal pour Jean Drapeau. Il n'avait pas trouvé ça comique du tout, du tout, du tout. L'arrivée de Drapeau sur scène, en jaquette, là, putain. Vraiment, là. Il n'était même pas venu saluer son futur gendre.
Il y en a qui pensent qu'avec le scandale Saunier, j'ai perdu la face. Eh bien, c'est pas grave. J'en ai une autre. Et quant à vous, messieurs les journalistes, je n'ai qu'une chose à vous dire. Quand je voudrai votre opinion, je vous la donnerai.
Le critique de spectacle René Aumirois, en avril 71.
Les cyniques sont effectivement en train de faire une tournée. Ils vont être quand même à Montréal demain pour une reprise de ce spectacle qu'ils ont présenté tout le week-end à la Place des Arts, à la salle Pelletier. C'est un très bon spectacle qu'ils ont présenté. À mon avis, le meilleur depuis que je les vois, je les ai vus quand même assez souvent au cours des dernières années, efficace, drôle, leur vulgarité porte, c'est une vulgarité qui nous touche, en sens que c'est des choses dont on a tendance à rire, même si on trouve ça très laid. C'est vraiment un feu d'artifice de blagues. Tous les cyniques sont très bons. Il y a Serge Grenier, que moi j'aime beaucoup. C'est le plus méchant, le plus cynique, le plus cool des quatre. Il dit des choses énormes avec l'air de ne pas y toucher. Et moi, ça plaît peut-être pas tout le monde, mais moi, ça me plaît beaucoup.
Alors, cher Dr. Frisette, nous passons à notre troisième et dernière lettre pour aujourd'hui. Elle nous vient d'une dame qui souffre d'embonpoint. C'est une surveilleuse de poids, une Weight Watcher. Et elle nous communique ici la quantité de nourriture qu'elle absorbe dans une journée. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le matin, la grosse mange deux pamplemousses, trois œufs, du bacon, des toasts, du fromage, des confitures, quatre tasses de café avec bien du sucre. Puis dans le café, c'est pas du lait crémé qu'elle met dedans. Ben non, c'est de la crème. De la 35%. Puis ça, là, elle appelle ça le petit déjeuner. Vers 10 heures, la grosse commence à se sentir faible. Pour se soutenir, elle mange quelques poignées de cachou. Le midi, la grosse mange un bol de soupe pour faire un bon fond, un spaghetti meatballs avec des boulettes. Mais elle mange pas de dessert parce qu'elle dit que ça fait engraisser.
Écoutez, on est devenu tellement politically correct. Si on fait des gags sur l'obésité morbide, on va se faire taper sur les doigts par l'Association des obèses du Canada, là aussi. si elle n'existe pas, je viens de la créer. Et je sais que c'est pas drôle en soi, que c'est des choses qui sont tristes, mais en même temps, s'il faut tout prendre dans la vie au premier degré et s'apitoyer sur absolument tout, ça peut aller très loin. Ça peut aller très, très loin. Ben moi, je regrette, mais un bon gag de gros, je trouve ça encore drôle. Et il y a personne qui va m'empêcher d'en faire.
Elle n'est pas si grosse que ça, la grosse. Mais chez Eaton, elle ne rentre pas d'un porte-battante. Une fois, elle a rentré dans une porte-battante. Elle l'a bien regretté. Magasin fermé à 9h. Elle se plaignait d'étourdissement.
J'ai toujours aimé chez Serge cet esprit caustique.
André Dubois.
Que ce gars-là soit capable de dire des énormités aussi incroyables avec une face pince sans rire. Personne d'autre que lui, je pense, aurait été capable ou on aurait admis qu'il dise des énormités. Mais avec lui, ça passait à cause de son petit air angélique.
Marc Laurendeau.
Serge n'est pas quelqu'un qui utilise le grand déploiement dans ses numéros, mais ça reste quand même drôlement efficace. Et y a quelque chose de très, très différent dans cet humour-là, de profondément original.
Je sors jamais sans ça. C'est mon livre de chevet. C'est vrai, j'en lis une page par jour. J'apprends des choses absolument extraordinaires. Alors, pour vous faire part des découvertes que j'ai faites dans l'annuaire du téléphone de Montréal, je vais l'ouvrir au hasard. Première découverte, c'est le nom le plus court du monde, qui est un nom bien québécois, bien de chez nous. C'est Guigué. 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 T'as fait caca, Guigué? Vous savez qu'il y a plusieurs de nos noms de famille, à nous, les Québécois, qui sont des noms descriptifs. Comme par exemple, le beau, le bel, la belle, le court, le fort, le bon, le doux, le grand, le gros et le bœuf. Mais on a aussi beaucoup de noms qui ont été influencés par la religion catholique, puisqu'on retrouve des cardinals, l'archevêque, l'évêque, l'abbé, des hôtels, de Rome, Thivierge et Thibaudot. Il y a aussi les noms optimistes, comme sans chagrin, l'heureux, beau soleil, sans regret, belle humeur, la joie, l'espérance et la charité.
Le 31 décembre, les Cyniques sont à la tête du Bye Bye 71 en compagnie des comédiennes Dominique Michel et Denise Filiatro.
Je vous écoute, mon enfant.
Bien, mon père, je m'accuse d'avoir volé une robe dans un grand magasin.
Êtes-vous chanteuse?
Non, mon père.
Bon, alors continuez.
Ensuite, bien, j'ai volé une paire de patins.
Oui, autre chose?
Oui, j'ai volé de la saucisse à l'épicerie.
D'autres choses?
Oui, mon père, j'ai volé des casseroles au magasin de fer.
C'est tout, ça?
Oui, mon père.
Bon, alors très bien, vous me direz 2 dizaines de chapelets. Maudite voleuse!
Jean Bissonnette est quelqu'un qui venait souvent nous voir en spectacle et qui appréciait beaucoup notre humour. Pour lui, c'était un naturel bye-bye, revue de fin d'année dans laquelle on s'attend à ce qu'il y ait du mordant et les cyniques. C'est lui qui est venu nous voir et qui nous l'a carrément proposé.
Le réalisateur, Jean Bissonnette.
On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et ce qui est admirable chez eux, c'est leur rigueur. Ils sont très professionnels. Comme disent les Américains, « Comedy is a serious business ». Et eux avaient compris ça.
Le téléjournal de Radio-Canada.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur l'ordre de Maître Jérôme Choquette, ministre de la Justice, on a capturé 40 prostituées. On les tient à la disposition du ministre de la Justice. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. Les psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. C'est quand il remue les lèvres qu'il ment.
On avait écrit pas mal de choses spécifiquement pour cette émission-là. Puis avec Dominique et Denise, de jouer avec elles, deux femmes qui avaient tellement de talent.
Qu'est-ce que c'est?
C'est la première ministresse du Québec, Mme Roberte Bourré, qui veut vous voir.
Oh, la fatigante qu'elle tombe ses nerfs, elle! J'avais pourtant dit de rester chez elle à Québec.
Est-ce que je fais rentrer la fatigante?
Ben oui, faites-la entrer.
C'était ça, c'était magnifique. Je garde un merveilleux souvenir de cette émission-là.
Le succès a été colossal. Vraiment énorme, incroyable. Les gens vous en parlent encore.
Trois semaines plus tard.
Si on parlait un petit peu d'Extrès dans son ensemble.
Oui, le film.
Dire un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant d'où vient cette appellation Extrès.
Est-ce que c'est, excuse-moi,
X-E. Alors,
est-ce qu'on dira X13 ou
X13?
X13.
Pour les éditeurs qui ont un peu perdu le fil, là, il semble que les cyniques ont fait un film.
Ben voilà, c'est ça.
Merci.
X13, The French Canadian Dream, The Mandarin Program, We love popcorn ice cream. X13, send the chip to chess, the kick cola, puis des outils en chocolat, s'il vous plaît.
le compositeur et musicien François Dompierre.
Ben d'abord, X-13, c'est une comédie musicale sur film qu'on a réalisé Jacques Godbout et moi, lui la partie bon cinéma et l'écriture du texte. On avait tous les deux l'intention de faire quelque chose de comique à partir de quelque chose qui existait et qui nous faisait un peu rire par la naïveté du contenu, c'est-à-dire les petits romans de Pierre Daigneault de X-13.
Le cinéaste Jacques Godbout.
Il m'est arrivé d'affirmer que X-13 était la quintessence de la Révolution tranquille parce que c'était la remise en question du Canadien français. Qu'est-ce que c'est que le Canadien français? Quelqu'un soumis à l'Église, donc c'est à chaque bout du film l'Église qui prend charge de l'histoire. Et puis finalement, X-13, c'est qui? C'est un aventurier, mais quel aventurier prudent. Le Canadien français, c'est celui qui ne risquait rien sans demander la permission à l'évêque ou au curé, suivant le cas. J'ai fait le casting avant d'écrire l'histoire. Et j'ai écrit ça en pensant à eux parce que il n'y avait pas d'autre groupe que les cyniques qui avaient eu sur la culture québécoise à l'époque de la Révolution tranquille l'impact que ce groupe a eu dans la conscience.
André Dubois.
C'est une histoire qui n'a aucun sens. Les décors sont en carton-pâte. L'humour est au 14e degré. La grosse crainte qu'on avait, c'est est-ce qu'on va te décevoir? On sera pas dans nos souliers habituels. En plus, il fallait chanter parce que c'était une comédie musicale.
Mon dos, c'est ta barbe, tu vas manger ma main en face. M'a t'enfouiller une dague, m'a casser les deux échasses. Mon colis de babu, y'a plus personne pour m'entraîner. M'a mouché mon morveux, tu vas crier, puis tu m'attires. Hostie, 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 6 points.
À un moment donné, il fallait décider lequel d'entre nous quatre faisait X-13. Alors là, ils ne sont pas nécessairement basés sur le talent, là. Ils sont basés sur la taille. Comme j'étais le plus grand, c'est moi qui faisais X-13. Et voilà que je me retrouve avec un rôle straight. Je n'étais pas sûr si je jouais correct. Personne ne riait vraiment quand je jouais. Alors que les autres, avec leurs personnages, faisaient rire tout le monde sur le plateau. Alors je sortais de là un peu déprimé. En plus, j'ai été obligé de me taper des chansons, puis pas avec n'importe qui, là, tu sais, Louise Forestier. Je me souviens que Don Pierre avait écrit une parodie des Parapluies de Cherbourg, une conversation téléphonique entre X-13 et un des très nombreux personnages que faisait Louise Forestier, une Française. Écoute, les Parapluies de Cherbourg, les mélodies qui s'en allaient à gauche, à droite, Louise qui était absolument parfaite.
Je suis Lydia Johnson, le sergent Gauthier de la police provinciale m'a demandé de vous téléphoner.
J'aurais aimé que ce soit lui qui vous aborde, voyez-vous. Je m'occupe de l'affaire West.
J'ai déjà dit.
J'avoue que ça a été dur. Ça a été très, très dur. Beaucoup de frustration de ma part de dire « Il me semble que je suis niaiseux. Où est-ce que ça s'en va? Je vais avoir l'air d'un épais dans ce rôle-là. » Pour aboutir finalement à quelque chose qui se tenait.
En fait, on se rendait compte que les cyniques n'étaient pas des comédiens.
François Dompierre.
Et on essayait de les faire jouer comme du monde. Mais moins ils jouaient bien, en fait, et on s'en est rendu compte plus tard, meilleur le film. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Marc Laurendeau.
On cherchait une façon de mettre en valeur Marcel en utilisant son meilleur talent. Et rapidement, l'idée qui est venue, c'est de faire une chanson. Et là, ça a été vraiment... Dom Pierre l'a écrite, a testé la voix de Marcel, lui faisait chanter des bouts. « Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de faire ça? » Ça a été vraiment taillé sur mesure, là, paroles et musique. Pour lui.
Je l'ai fait souffrir dans X-13 parce qu'il chantait des chansons et je lui en ai écrit, lui, des plus difficiles qu'aux autres. Marcel n'avait pas nécessairement de la technique vocale. Et il y avait un naturel pour le chant, la voix, mais il n'était pas nécessairement... c'était pas un chanteur professionnel.
Je voulais pas que je chante au complet, François. Là.
Un petit bout.
Un petit bout. Ah, pardon.
Faites de l'air. Ça soleil. Faites de l'air. C'est Marius Becher au travail. Arrêtez-moi, ou je fais un malheur. Bordel de bouillabaisse, je m'en vais vous prouver que je n'ai pas peur, pas peur.
Il était celui qui avait la voix pour le faire.
Jacques Godbout.
Il était celui qui avait envie de le faire. Il était celui qui pouvait le faire. Qui voulait le chanter. C'était un morceau d'opéra dans lequel Saint-Germain s'est vautré à proprement parler. Il a donné tout ce qu'il pouvait. ça lui permettait à la fois sur scène et dans l'arène d'exposer toute sa force, toute sa puissance. Et puis, ça faisait une finale et que le caméraman, évidemment, était ravi d'avoir enfin quelque chose à mettre dans sa lentille.
Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air.
Les critiques qui prenaient ça au sérieux étaient déçus. Les critiques qui ont compris l'ironie ont bien marché. Et curieusement, le public s'est divisé en deux, ceux qui reprochaient à ça son artifice et ceux qui jouissaient de l'artifice. Puis la carrière d'X-13 s'est mise à se modifier, à rouler, et c'est avec l'autre génération, non pas celle qui avait 30 ans, mais celle qui avait 10, 12, 13 ans, que ça s'est mis à fonctionner. Et c'est les enfants des enfants de la Révolution tranquille qui lui ont fait un sort.
Puis finalement, ça semble être devenu une sorte de film culte. C'est ça, j'avoue que c'est une des choses qui sont arrivées avec les cyniques là, les plus imprévues là, qu'on puisse imaginer.
Extrait de l'émission Bonjour Montréal du 14 mars 1972 avec l'animateur Michel Desrochers.
Hier, il y avait un cocktail conférence de presse dans la métropole pour annoncer le spectacle nouveau des cyniques qu'ils vont présenter à la Place des Arts. C'est une publicité gratuite, mais André Dubois, Marc Laurendeau, Marcel Saint-Germain et Serge Grenier quittent le milieu artistique, le métier, après ce spectacle, leur show d'adieu qui aura lieu à la Place des Arts très bientôt. Alors, au nom de tous les gens, partout au Québec, au pays et même en Europe, les cyniques qui nous ont fait rigoler pendant 10 ans, avec de la satire, avec de l'humour, avec... un humour bien québécois et des fois sarcastique, ben nous leur souhaitons la meilleure des chances et nous les remercions en votre nom d'avoir fait rire le Québec. Comme l'a dit, je pense, René Aumirois, ils ont fait peut-être partie de la Révolution tranquille. Alors, les cyniques n'existeront plus après leur spectacle au mois de mai à la Place des Arts.
Marc Laurendeau.
Mes raisons d'arrêter les cyniques, ce sont exactement les mêmes que les autres. Étrangement, c'était de vivre d'autres expériences, de redevenir un individu. Et on se rendait compte que si on continuait, si on faisait une autre décennie, on pouvait devenir des exploiteurs d'une recette sans se remettre en question. Et il était entendu au départ, c'était que ça devait durer un certain temps. La dernière année, nos esprits se sont rencontrés, je puis dire, on a dit, est-ce qu'on continue? Ça fait un bon bout de temps, là. Et on est arrivé à faire les principales choses que l'on voulait faire. Un bye-bye, un film, la Place des Arts. Dans les boîtes à chansons, on est resté présent jusqu'à la fin. On a fait 8 disques, pensez-y, 8 disques. Alors, on a fait le tour du jardin.
André Dubois.
Nous, on est arrivé en pleine ébullition de la Révolution tranquille. On était portés par un mouvement. Les gens ont été ravis de nous voir arriver parce que nous, on disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. On a accéléré un mouvement. Ça a été extraordinaire de faire partie de ça. Puis on le sentait, puis c'était vraiment fantastique. Au début des années 70, ça avait changé. C'était plus la même ébullition, là. Ça y est, le vent avait tourné, le Québec avait changé. C'est comme si notre humour était moins nécessaire.
Serge Grenier.
Donc, on s'est dit, bon, c'est très bien. On fait un dernier spectacle. On va l'appeler « Show d'adieu » parce que ça va être notre « Show d'adieu ».
Vous connaissez tous, bien sûr, le phénomène du petit Simard. Le petit Simard a fait des disques, le petit Simard a fait des films. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrivera au petit Simard dans 20 ans d'ici? Figurez-vous que nous sommes maintenant 20 ans en avant de notre temps. Québec s'est chanté, accueille pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans un extrait de l'opéra Payasse, le gros Simard.
Lorsque les cyniques ont fait la parodie du gros Simard, J'ai trouvé ça drôle parce que chez nous, on s'est toujours fait des bye-bye au niveau de la famille. Et puis quand cette chose-là est sortie, bien sûr qu'on est une gang de clowns, on a ri. Mais ce qui me faisait peur, c'était la vision qu'il y avait, qu'il y avait du gros Simard. Le René Simard devenu, hein, tu sais, chanteur d'opéra, mais que... Mais la chanson était drôle.
Quand j'étais petit, je t'aimais comme une hostie. Mais c'est moins fun. Depuis que je pèse une tonne, je chante encore des airs mélancoliques. Mais l'argent rentre moins fort. Je trouve ça moins comique.
Je voudrais qu'on se souvienne de m'avoir vu colline. Mais maintenant j'ai plus une scène, j'ai fait la pièce. Mais j'ai le cul sa paillasse. J'ai plus de gérant, mais j'ai encore ma main. Alors j'avais trouvé ça très drôle. Puis justement, j'ai encore ma maman qui a toujours dit: si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand chose.
Le téléjournal de Radio-Canada. À la suite de la guerre en Extrême-Orient, guerre qui se poursuit ad vietnam aeternam, l'Assemblée des Nations Unies a décidé d'adopter un nouveau langage international politique. Il s'agirait en l'occurrence de la musique. Ainsi, on exprimerait: un imbécile, deux imbéciles, et enfin 200 millions d'imbéciles.
Deux plus grands moments d'émotion, ça a été, je vous dirais, le dernier spectacle à la Place des Arts, parce qu'ils ont touché un très vaste public. Là. C'était la dernière fois, là, à Montréal, à la Place des Arts. C'est à Louis-Wilfrid Pelletier et le dernier spectacle de la tournée à Drummondville. Le lendemain, on allait reporter nos costumes chez Ponton et c'était fini. C'était fini, fini, fini. Le disque sortait après ça, le dernier disque, Exit, et c'était fini.
J'en aurais pris un autre 10 ans, moi, certain.
L'humoriste et imitateur Jean-Guy Moreau.
Les cyniques, c'était 4 miroirs, plus que nécessaire, essentiel à l'évolution du peuple québécois. C'était trop court. Ouais, les cyniques, c'était trop court.
L'historien et auteur Jean-Claude Germain.
Il y a des gens actuellement qui vont dire: moi, je suis de la génération Monty Python. Les cyniques, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un genre de vent d'insolence, un vent d'insolence qui apparaît à ce moment-là, puis qui va se maintenir à travers les 10 ans qui vont suivre. Ils ont quand même fait 10 ans ensemble. Ils ont traversé l'autre bord des années 70. Puis en même temps, avec une révolution qui avait connaissé des bouleversements, toutes sortes de choses, quand même, il y a aussi des bombes, il y a un tas d'affaires, parce que quand même, ils ont passé à travers tout ça, là. Et ils ont traduit ça d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, c'est ce moment-là de l'histoire. Puis, d'une certaine façon, si on se dit la révolution tranquille, c'était quoi? Ben, si tu penses au niveau du comique, tu dirais, mais c'était les cyniques.
Jacques Godbout.
Ils étaient là pour élargir les esprits, agrandir le point de vue. Et à ce niveau-là, à mon avis, ils ont joué un rôle très, très important. Pour la classe qui allait les écouter. C'est pas n'importe quelle classe, c'est celle qui a fait cette révolution tranquille.
Maintenant, donc, c'est terminé. Vous n'y reviendrez pas.
C'est pas du tout notre intention.
Extrait d'une entrevue accordée par Marc Laurendeau à l'animateur Joël Lebigot en mai 72.
On a préparé autre chose, on pense à faire autre chose. Ça a été une expérience humaine extrêmement enrichissante. Il y a aussi un fait important, je pense qu'il convient de le signaler. Après avoir critiqué un tas de gens pendant des années, après avoir ri d'un peu tout le monde, peut-être qu'il y a ce désir subconscient de se dire, ben, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, nous aussi. Peut-être qu'on pourrait mettre la main à la pâte, puis agir dans un domaine précis, qui a l'air, disons, plus dans l'ombre pour le moment, mais on qui est tout aussi sérieux. Puis,
mais on ne vous voit pas faire autre chose, justement.
Oui, mais nous, on se voit.
Après la séparation des cyniques, André Dubois et Serge Grenier demeurent dans le milieu artistique. Le premier en tant qu'auteur et producteur pour la télévision, le second en tant qu'humoriste, chroniqueur et scripteur pour diverses émissions et revues humoristiques. Marcel Saint-Germain devient, quant à lui, directeur des communications chez Bell Canada. À la retraite, au milieu des années 90, il est engagé comme dépisteur de talent pour le groupe Juste pour rire. Il s'est éteint le 27 décembre 2007. De son côté, Marc Laurendeau entreprend dès 1973 une carrière de journaliste.
Dans mon cas, ça a été une coupure radicale. Ça a été difficile d'enlever sur moi toute poussière et toute réminiscence des cyniques, toute inflexion dans la voix pouvant rappeler cette période. La façon de faire la transformation, ça a été de passer par la presse écrite, que les gens oublient ma voix, mon visage. De changer un peu d'allure aussi, c'est-à-dire de changer l'apparence physique, et de ne pas jouer sur les deux tableaux. Il fallait envoyer un message clair, que j'avais changé de métier, de préoccupation, d'angle de traitement. Alors, je ne pouvais pas faire un commentaire d'ordre politique, puis compter un gag tout de suite après. Et j'étais invité aussi pour interviewer des personnages politiques qui avaient été, 3-4 ans avant, mes têtes de Turc. C'était pas facile. C'était pas facile au début. C'est Camille Sanson, une fois, qui m'a envoyé une petite allusion. Mais dans 99,9% des cas, les gens faisaient abstraction de ça dès qu'on entrait dans la patinoire personnages politiques et journalistes.
Le groupe se réunit une dernière fois en 1990 pour présenter à la télévision Les Cyniques à l'Université de l'Humour. Une série de 4 émissions qui retrace les grands moments de l'humour au Québec. La même année, le festival Juste pour rire leur rend hommage en leur remettant le prix Victor pour l'ensemble de leur carrière.
Mais soyons sérieux un petit peu. On est effectivement très, très touchés de recevoir ce prix. Et cette émotion, d'ailleurs, on voudrait la partager. Parce que l'humour au Québec, c'est vraiment une grande tradition et, en définitive, on a été seulement un maillon de la chaîne.
On s'en est surtout rendu compte en visionnant les nombreux documents audiovisuels pour la série L'Université de l'humour. Et avant nous, il y avait de grands et d'extraordinaires humoristes et comiques. Et après nous, ça a été une explosion. Il y en a eu encore plus. Et c'est tant mieux.
Alors, ce prix Victor vient confirmer ce que nous pensions déjà fondamentalement.
On était les meilleurs.
L'humoriste Daniel Lemire.
J'ai écouté leur disque à les user. Moi, j'étais un fan fini. Ils sont d'ailleurs une des raisons pourquoi je fais ce métier-là, parce que moi, ça m'avait amené complètement un autre éclairage. Tu sais, l'humour incisif, il s'appelait pas cynique pour rien d'ailleurs. Déboulonner les statues, les vaches sacrées, il frappait tout azimut. Ça, c'était vraiment là, wow, tu sais, c'était extraordinaire ça. Et parallèlement à ça, c'est quand même dans leur spectacle, c'était assez équilibré. Il y avait des numéros essentiellement comiques aussi. Tu sais, il y avait un bon dosage. Là. C'était pas toujours là, la croix et la bannière. Là, je veux dire. Alors, je pense que ça a influencé énormément ma manière de travailler plus tard, ça, c'est sûr.
André Ducharme, du groupe Rock et Belles Oreilles.
Bon, à qui Rock et Belles Oreilles ressemblait le plus au niveau du style d'humour, je pense qu'on peut dire les cyniques. Il y a beaucoup, beaucoup de parallèles. Oui, un humour d'observation société, humour politique. RBO a fait des imitations, RBO a fait de la chanson, les cyniques en ont fait, mon Dieu. Oui, l'humour méchant, je pense qu'on peut dire que Guy Lepage et Serge Grenier, dans une certaine mesure, peuvent se ressembler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles.
Les membres des apartistes Christian Vanas et François Parenteau.
Oui, il y a une filiation directe. C'est pas pour niaiser non plus qu'on a fait une photo au tout début des apartistes, qu'on a voulu faire une photo officielle de groupe faisant un clin d'œil à la fameuse photo du cimetière. On a essayé de spotter l'endroit exact où la photo avait été prise, mais 30 ans plus tard, peut-être donc, les arbres ont poussé, on voit presque plus le paysage derrière, mais on a voulu refaire ce clin d'œil-là parce que pour nous, les cyniques avaient été un groupe très important, un groupe d'humour qui avait touché à la politique puis qui s'attaquait à des thèmes qui, à l'époque, étaient le pouvoir. Puis pour nous, l'humour a toujours été un contre-pouvoir.
Beaucoup de gens nous font la référence qu'on fait penser aux cyniques, y compris Marc Laurendeau, qui est venu voir nos spectacles et qui nous l'a dit que ça y faisait penser à son jeune temps des cyniques. Et ça me touche beaucoup. Ça nous touche tous beaucoup. Il y en a qui s'en vont à Liverpool puis qui traversent le trottoir. Là, ben, nous autres, on est allé à Côte-de-Neige dans le cimetière posé comme les cyniques. T'sais. C'est ça.
Moïse, j'ai pour toi des commandements.
J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute.
Ça ne coûte rien.
OK, je vais en prendre 10.
Les cyniques, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. C'est quelque chose dans lequel je suis embarqué, qui m'a envahi en quelque sorte. J'ai vécu à travers ces années-là toute la Révolution tranquille d'une façon incroyable. Se retrouver vedette à 23, 24, 25 ans, alors qu'on n'a jamais rien fait pour l'aide. Être considéré comme les porte-parole de ce qui est en train de se passer au Québec, c'est fantastique.
Dis donc, monsieur, je fais une quête, là. Je pourrais-tu avoir une pièce pour l'enterrement d'un journaliste?
La 5 piastres, enterre-en 5.
On n'a pas été des décideurs politiques, on n'a pas voté des lois, on n'est pas intervenu dans le processus législatif ou exécutif, mais en essayant d'éveiller les gens par le rire sur certains problèmes, on a peut-être influencé l'opinion ou fait évoluer l'opinion du début à la fin de la Révolution tranquille.
C'est la différence entre le capitalisme et le communisme, quoi?
Non.
Mais le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
Puis le communisme?
C'est le contraire.
Moi, je me contenterai de résumer ça en deux mots. Les cyniques étaient à la fois pertinents et impertinents.
Mesdames, messieurs, c'était les cyniques!
Nous tenons à remercier Joanne Bertrand, Isabelle Albert, Patricia Landry, Louis Bélanger, Monique Hens, François Dompierre et Guy Bertrand. Archives, Stéphane Gourde et Marie-Lie Houle. Technicien, Christian Ferland. Narration, Marie-Ève Soutière. Recherche, entrevue et réalisation, Mathieu Beauchamp. Les Cyniques, méchante révolution est une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal.